Ce message vous est proposé gratuitement. Gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Magnificence au sein des siècles, oh Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour ta grandeur. Je bénis ton nom pour ta présence, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous contemplons ta sainteté. Merci Père pour ta grâce. À toi l'élévation, à toi la louange, Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout et faire monter des acclamations vers le roi de gloire? Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Père parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci parce que tu conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus, face à toutes les adversités, aux problèmes, aux difficultés, je suis un. Amen. Amen. Vous savez, le véritable vainqueur, le véritable champion, le premier champion, celui qui a tout vaincu, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tant que nous allons nous identifier à ce Christ, tant que nous allons nous identifier à Jésus, nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mes amis, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui prient, qui adorent, qui fréquentent des communautés. Mais observez bien, tous les chrétiens, malgré toutes les promesses de Dieu, malgré toutes les grandes promesses de Dieu, tous les chrétiens n'entrent pas dans cette dimension, souvent là, de champions, de vainqueurs, de personnes qui triomphent. Les problèmes, les affres de la vie détruisent un grand nombre de personnes qui fréquentent les communautés. Beaucoup de gens qui fréquentent les communautés n'ont pas une vie épanouie, épanouie sur le plan professionnel. Ils ne sont pas épanouis sur le plan, dans le domaine de la famille, sur le plan conjugal. Ils ne sont pas épanouis dans leur vie de tous les jours. C'est vrai, ils viennent à l'église, ils ont une très forte espérance dans leur cœur que Dieu est vivant, mais il y a cette réalité de la victoire quotidienne là qu'ils ne vivent pas. Et ça, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et Dieu vient te transformer, changer ta mentalité, afin que tu puisses entrer dans la victoire comme Jésus-Christ ton Seigneur est entré. Amen. Alléluia. Les paroles que nous recevons sont esprit et vie. Elles transforment véritablement la vie. Elles changent les cœurs. La différence entre ceux qui ont de la réussite, du succès et ceux qui échouent, c'est la parole de Dieu, c'est aussi la foi. Amen. C'est la foi. C'est la foi qui fait la différence. C'est par la foi qu'on obtient des guérisons extraordinaires. C'est par la foi qu'on obtient toutes choses. Rappelez-vous ceci. Le plus souvent, lorsque des malades s'approchent vers Jésus, sans même lui poser une question, ils s'approchent, Jésus leur dit cette phrase. Il dit, ma fille ou bien, monsieur, madame, ta foi t'a guéri. Je me suis souvent posé la question, Jésus disait-il cela par humilité ou parce que c'était la vérité? Je vous pose la question aussi. Quand Jésus dit, par exemple, à la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, ta foi t'a guéri. C'était par humilité pour ne pas dire que Dieu est passé par moi. Ou bien c'était la vérité. C'était la vérité. Autrement dit, Jésus leur expliquait que ce n'est pas vraiment moi qui t'a guéri. En réalité, c'est vrai si je t'ai guéri. Mais ce n'est pas vraiment moi. C'est ta foi en moi qui t'a guéri. Ta foi. Donc, certaines personnes qui n'avaient pas la foi n'ont pas su profiter de la guérison. Il y a des gens qui sont dans la marche du Seigneur et persistent avec des maux, des maladies qui ne sont pas le plan de Dieu. Il y a des situations que vous vivez qui ne sont pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, mais c'est une affaire de foi. Vous savez, c'est vrai que Dieu est souverain. Mais il ne faut pas fonctionner, il ne faut pas marcher avec Dieu dans le sens que c'est ce qu'il veut qui va arriver. Donc, quels que soient mes efforts, c'est sa volonté qui va se manifester. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Quand vous avez un sujet dans votre cœur, quand vous avez un sujet qui vous tient à cœur, il faut persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous obteniez, jusqu'à ce que vous soyez exaucé. Et s'il se trouve que votre prière est en dehors du plan souverain de Dieu, Dieu va vous l'indiquer clairement. Mais vous ne pouvez pas de vous-même vous arrêter sur un sujet que vous savez être, ou bien que vous croyez être la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas vous-même vous arrêter. Je vous ai souvent donné mon témoignage lorsque j'étais en classe de terminale, la première année de terminale où j'ai échoué au bac. Je priais, j'étais déjà serviteur de Dieu, j'avais tellement de zèle, je parlais de Dieu à tout le monde. Et j'étais convaincu en allant au bac que j'allais l'avoir, j'allais l'obtenir ça vraiment à 100%. Et je priais pour moi, Dieu vraiment devait se glorifier. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, j'évangélisais tellement que je n'étudiais pas beaucoup. J'étais pas équilibré entre mes études et ma vie spirituelle. Il n'y avait pas d'équilibre. Je disais, oh, Dieu va tout faire, Dieu va tout faire, Dieu va tout faire. Alléluia. En fait, je n'agissais pas. J'avais l'espérance d'avoir l'examen, mais je n'appliquais pas le côté, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Parce que si j'espère que j'aurai le bac, je dois démontrer, n'est-ce pas, en me comportant comme quelqu'un qui va avoir le bac, c'est-à-dire en travaillant. Alléluia. La démonstration, c'est le fait de commencer à agir dans le présent par rapport à votre rêve. Alléluia. Mes amis, c'est une parenthèse. Il ne faut pas rester dans les rêves simplement. Alléluia. Il faut rêver, mais il faut commencer à agir. Quelqu'un qui ne travaille pas dans le présent et qui dit que, qui ne commence pas à agir et qui dit, je rêve que je serai PDG demain, ce n'est pas la foi. Parce qu'il n'est pas en train de démontrer dans sa vie de tous les jours qu'il sera un PDG demain. Amen. Dans le grand français, on appelle ça comment? La procrastination. C'est le fait de remettre à demain tout ce qu'on peut faire maintenant. Non, demain je serai ceci, demain je serai cela, demain je vais aller ici, demain Jésus-Christ va m'envoyer dans telle ou telle dimension. Si tu ne commences pas à agir, si tu ne démontres pas la foi, tu n'es pas en train d'appliquer la foi. Alléluia. Alléluia. Et il faut commencer à agir de manière progressive. Il faut commencer à agir pas à pas. Tu ne peux pas commencer à rêver pour du monde demain. J'ai vu un esprit par la foi. Je serai multimilliardaire. N'est-ce pas? Et tu ne commences pas à agir aujourd'hui pour commencer à poser les premiers pas qui vont te donner ton premier 10 000 francs, tes premiers 20 000 francs. Amen. La foi est un processus. Donc je reviens sur mon témoignage. J'avais donc cette conviction-là, mais je n'agissais pas en conséquent. Et ce qui va se produire, c'est que, arrivé au bac, comme au début, on commence par des matières, un peu de l'esprit, c'est une appréciation du professeur philo, littérature, pour moi, bon, chacun donne son avis, quoi. Quand on est arrivé en maths, j'étais en terminale C. Moi, j'avais prié avant. La Bible dit qu'il faut être précis dans la prière. N'est-ce pas? Donc, j'ai rêvé comment j'avais le bac. J'ai fait tout ce qu'on appelle rêve, là. J'ai tout fait. Donc, j'arrive, je prends une feuille. Je dis, Père, tu as dit d'être précis. En mathématiques, je veux 20 sur 20. En physique, je veux 20 sur 20. Il faut que les élèves, en voyant ces notes, puissent dire que mon Dieu est puissant. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'on croit que je suis un élève intelligent comme les autres. Il faut que Dieu me démarque. Et j'ai demandé 20 sur 20 en maths, 20 sur 20 en physique, sciences naturelles, 17 sur 20, en tout cas des choses comme ça. C'est-à-dire, il fallait que j'aie le bac là avec mention. Voilà. Et pour moi, c'était ça la foi. D'abord même, Dieu m'avait averti depuis le début de l'année. Déjà, en classe, j'avais prié pour être premier de la classe en terminale. J'ai prié en moyenne, je voulais avoir, je sais pas, au moins 17 ou 18. J'avais dit, je lui disais à Dieu que entre moi, premier de la classe, et le deuxième, il faut qu'il y ait 4 ou 5 de moyenne. Pour que, mes amis, je prêche, je parlais tellement de Dieu. J'ai dit, pour que les gens se rendent compte que ceux qui servent le Seigneur, alléluia, hein, pour que les hommes se rendent compte qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, le premier devoir en mathématiques, je dis, Seigneur, glorifie ton nom, donne-moi un 20. J'ai failli avoir 0. D'abord, 1 ou 2 sur 20. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je venais d'arriver dans cette école. J'avais fait ma première CP à Gagnoua et mon père avait été réaffecté dans la ville de Daloa. Donc, dans la classe, la personne ne me connaissait. J'ai dit, Dieu, les gens ne me connaissent pas. Il faut que tu te glorifies. Parce qu'en première, je considérais que j'avais été beaucoup éprouvé. Je suis passé de justesse. Mais parce que je n'étudiais pas. J'étais tout le temps en train d'évangéliser. Il n'y avait pas d'équilibre. Premier, donc Dieu commence à m'avertir. Je dis, bon Seigneur. Et ainsi, le premier trimestre, ou bien semestre-là, j'oublie à cette époque s'il y avait trimestre ou semestre. En tout cas, la première étape de l'année, ça a été lamentable. J'ai dû finir avec un 8 de moyenne, ou bien 7 de moyenne. Grave. Et là, je dis, ah Seigneur, je comprends ce que tu es en train de faire. Tu as permis que j'ai 7 ou 8 de moyenne. Comme je suis nouveau dans l'école, il faut que les élèves se rendent compte que moi-même, sans logo, je ne suis pas intelligent. Maintenant, au deuxième semestre, là, on casse la baraque avec un 17 de moyenne. On va dire d'où il sort. Et comme tous les élèves savent que je ne triche pas, tout le monde va rendre gloire à Dieu. J'ai fini l'année scolaire, en tout cas, j'étais vers les 7, 8 là. Donc j'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu t'es pas glorifié? Sûrement que ce sera au bac. Quand j'ai composé l'épreuve de maths, pour finir le premier exercice, là, je cherchais 20 sur 20. Mais le premier exercice même, ah, ça ressemble pas à 20 sur 20. Sincèrement, j'attendais qu'un ange apparaisse. Et de manière invisible et visible à moi seulement, il apparaisse et il écrive sur le tableau. Mais la correction. Et moi, j'allais recopier. Je prie, je flash sur le premier exercice, je regarde le tableau. L'ange n'apparaît pas. Je dis, Père, où es-tu? Où es-tu? Les minutes sont en train de passer. Je dis, bon, sûrement que Dieu me prouve. Il faut que je reste ferme dans ma foi. Vers la moitié de l'heure, l'ange va m'apparaître. Parce que là, le deuxième exercice, je n'ai rien vu. Je prends le troisième. En tout cas, j'ai fini seulement un seul exercice. Mais la manière dont j'ai fini l'exercice là, j'étais pas sûr d'avoir une bonne note. L'ange n'est pas apparu. Rien. Jusqu'à la fin de l'heure, je me suis levé, sachant dans mon cœur que ça c'était grave. Et là, je rentre à la maison en marchant. Je dis, mais Seigneur, tu as dit que si je te demande quelque chose avec la foi, tu vas me donner. Je t'ai demandé 20 sur 20. Tu m'as dit d'être précis. Je n'ai même pas fini le premier exercice. Comment puis-je espérer avoir 20? Et donc, je demande ça à Dieu. Et dans mon cœur, je dis, non, ma mère ne te relâche pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que quand tu seras à la maison, Dieu va envoyer son ange qui va changer ta feuille et mettre une feuille de 20 sur 20. Physique se fit pratiquement pareil. Alléluia. Oui, c'est bien que je donne ce témoignage-là par rapport à notre enseignement sur la foi. Et si vous ne comprenez pas ça? Alléluia. Alléluia. Il y a un ami qui dit, quelquefois entre la foi et puis la folie. En tout cas, dans le vocable, il y a une différence, il y a un L. Bon, en écrivant, il y a L et puis il y a E. Fais attention. Alléluia. Mais je suis pas, je dis, Seigneur, il faut que je persévère. Et j'étais convaincu que j'allais avoir cet examen-là. Je priais. Jusqu'au résultat, je me rends compte que j'ai échoué. Lamentablement, je vais prendre ma collante. J'ai échoué lamentablement. Amen. Beaucoup connaissent ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelque chose qui a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses par rapport à la foi. Amen. Dimanche prochain, je reviendrai là-dessus. Alléluia. Sur cet aspect en ce qui concerne la foi. Vous savez, quelquefois, si vous ne comprenez pas la foi, tu peux mal prier. Tu peux prier, et cette prière-là venait de quoi? Ce n'était pas une prière par rapport à l'esprit. Ce n'était pas une prière par rapport à la volonté de Dieu. C'était une prière par rapport à mes convoitises. La Bible dit, vous demandez, vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Alléluia. Alléluia. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. C'est la raison pour laquelle Dieu ne répond pas. Amen. Et je vous ai dit que la convoitise est une chose qui est en nous, qui émane de notre chair. Et il y a certaines voix que nous entendons en nous qui ne sont pas la voix de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et je peux encore dire ceci, le doute vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend aussi, les paroles du diable. Pas seulement du diable, si on veut être plus précis, mais le doute vient de ce que tu écoutes, les paroles aussi de ta chair. Le doute vient de ce que tu écoutes, les paroles de ton âme. Ce que je manifestais en classe terminale, ce n'était pas la foi. Ça ressemblait à la foi, mais ce n'était pas la foi comme Dieu l'a définie. Alléluia. Mais comme j'étais persévérant et persistant, Dieu m'a fait obtenir grâce. Parce que je me souviens que j'ai persévéré. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Le jour où j'ai pris ma collante, quand j'ai regardé les résultats, j'ai dit, ah mais c'est sérieux. Je vais prendre la collante, échec. Et quand j'ai pris la collante, je marchais et j'ai dit, Seigneur, cet examen, je ne dis pas l'année prochaine, mais ce bac qui vient de passer, quitte à ce que tu fasses, recorriger les feuilles. Mais je suis convaincu, je persiste dans ma foi, j'aurai le bac. Ce bac passé. Vous voyez ma foi, comment j'étais là? Alléluia. Mais ma détermination a quand même touché Dieu. Ma détermination a quand même touché le Seigneur. Et j'ai entendu une voix qui a crié autour de moi, comme des cris de joie. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, Mohamed, tu as obtenu grâce auprès du Père à cause de ta foi. Et de cet instant-là, il y a une joie immense qui m'a rempli. Alléluia. Vous savez, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quelquefois, vous ne pouvez pas savoir ce que moi j'appelle la volonté souveraine de Dieu. Vous devez toujours persister pour vos sujets. Vous n'allez pas obtenir exactement ce que vous voulez. Mais je vous assure que vous serez d'une manière ou d'une autre toujours exaucé. Il ne faut pas vous relâcher dans la prière. Alléluia. Il ne faut pas vous relâcher dans la foi. Vous ne comprenez pas tout. Si aujourd'hui je peux m'arrêter devant vous et puis vous expliquer ces choses, c'est parce que la foi m'a permis de vivre certaines expériences et de pouvoir parler de ces choses aux gens. Amen. Alléluia. Quand vous croyez que quelque chose est juste, quand vous croyez que quelque chose est noble, si vous croyez que ce que vous demandez est la volonté de Dieu, vous savez, tu ne perçois pas à 100% la volonté de Dieu. Mais si dans ton âme et conscience, tu crois que ce que tu fais selon le plan de Dieu, persévère. Vas-y. Et puis au fur et à mesure, écoute la parole de Dieu. Mais sache que Dieu est souverain. Peut-être que tu n'as pas exactement obtenu la chose comme tu le désirais. Mais quand Dieu va te donner son résultat, certains l'ont vécu dans le cas du mariage. Ils ont commencé à prier par rapport à une personne. Or, c'est leur convoitise qui les attirait vers cette personne. Mais ils ne savaient pas. Pour eux, c'était le plan de Dieu. Parce qu'en fait, il y avait une voix qui leur parlait plus. C'était la voix de leur chair. Mais ils n'arrivaient pas à distinguer que cette voix qui les amenait à prier était de la convoitise et non la volonté de Dieu. Alléluia. Il a fallu qu'elle persiste et que Dieu les corrige en chemin pour qu'elle tire profondément la leçon. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, quand vous croyez en quelque chose, allez jusqu'au bout. Il est préférable de persévérer, n'est-ce pas? De trébucher pour que Dieu vous relève, afin que Dieu vous relève. Ça fait que vous comprenez. Mais quand vous abandonnez, vous n'allez pas tirer la leçon. Alléluia. Alléluia. Et ce qui amène justement à avoir ce genre d'échec dans les sujets de prière, c'est ce dont j'ai commencé à parler. Pour revenir à notre histoire d'Abraham, parce que nous parlons de l'identité, mais du rôle de l'identité dans la manifestation de la foi. Tout ce dont vous avez besoin s'obtient par la foi. La Bible déclare ceci, mon juste vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi. Alléluia. Nous ne sommes pas une grande communauté, mais si nous avons pu arriver là, c'est par la foi. C'est la foi qui nous a conduit à aller ici. Et toutes ces expériences-là m'ont donné une chose, de ne pas dépendre des hommes, mais de compter uniquement sur Dieu. Alléluia. De compter uniquement sur Dieu. Et c'est cette expérience-là que je suis en train de partager avec vous. Vous pouvez soulever toute forme de montagne. Vous pouvez voir les sentiers s'aplanir devant votre chemin. Vous pouvez vivre le bonheur si seulement vous avez la foi. Mais si vous doutez, vous n'obtiendrez rien. Amen. Et votre identité a un rôle important à jouer dans cette foi-là. Alléluia. Alléluia. Alors, on avait dit ceci en ce qui concerne l'identité. J'avais dit ceci que il y a deux formes d'enfants. Soit les enfants de Dieu, soit les enfants du diable. Et je vous ai expliqué que quelquefois, malgré le fait qu'on se soit même converti, entre guillemets, ou bien qu'on ait cru en Jésus, on n'est pas encore, entre guillemets, à 100% enfant de Dieu. Mes amis, écoutez-moi, je ne suis pas en train de remettre en cause le salut. Mais j'ai dit, tant que Dieu n'a pas brisé en nous certains liens du monde, on peut être à un moment donné fils de Dieu, c'est-à-dire utilisé par Dieu, et puis à un moment donné fils du diable. Et c'est ce que nous avons lu dans l'histoire de Pierre, n'est-ce pas, qui en Matthieu chapitre 16 a été utilisé par le Seigneur et Jésus a dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et plus bas, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. La majorité des chrétiens évoluent dans cette forme d'oxyation. À un moment Dieu t'utilise et puis à un moment donné, Satan t'utilise. Et Jésus peut te dire comme ça, arrière de moi Satan, fils de Dieu, fils du diable. La Bible dit ceci, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole a donné le pouvoir de devenir, comment? Enfant de Dieu. Je pourrais dire aussi, à ceux qui reçoivent les paroles du diable, cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant du diable. C'est-à-dire de poser des actes diaboliques et de marcher comme le diable. Même si de leurs lèvres, ils prononcent qu'ils sont fils de Dieu. On a lu cela dans le livre de Jean chapitre 8. Les Juifs disaient, ils ont cru en Jésus et de leurs propos, ils disaient, nous avons Dieu pour père. Donc, ils ressemblaient à tous les croyants. Mais Jésus leur a dit, vous êtes fils de Satan parce que vous avez accepté ces mensonges et que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Donc, c'est une affaire de parole qu'on reçoit. On est fils de Dieu parce qu'on reçoit la parole de Dieu. On est fils du diable parce qu'on a reçu les paroles du diable. Et quand on est fils du diable, on connaît l'échec, les problèmes, les difficultés. La Bible dit que les projets que Dieu établit pour nous sont des projets de paix, de bonheur. Ce n'est pas des projets de malheur. Le malheur chronique vient de ce qu'on a reçu les paroles du diable. L'échec, le chômage, en fait tous les problèmes que vous connaissez viennent d'un manque de foi. Et or, le manque de foi, c'est le doute. Or, le doute vient des paroles du diable. Alléluia. Qui est-ce que vous écoutez? Qui écoutes-tu? Quelles sont les paroles que tu reçois? Quelles sont les paroles qui dirigent ta vie? Quelles sont les paroles qui orientent ta vie? J'ai répertorié 4 grandes sources négatives de paroles. Dis avec moi 4. Nous allons les citer, les identifier, et puis avec quelques exemples pratiques, permettre à chacun de pouvoir triompher de ces paroles-là en recevant dans son cœur les paroles de Dieu. Alléluia. Rappelons-nous ce que nous avons lu le tout mardi. La Bible dit que comme Jésus est parlé ainsi, il y a plusieurs qui ont cru en lui. Et il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, pour être libéré totalement de l'esclavage du diable et des mensonges de l'ennemi, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons voir cela tout à l'heure dans la suite. Donc, je disais tantôt qu'il y a 4 grandes sources négatives de paroles. La première, ce sont les paroles du diable. La deuxième, les paroles de la chair. La troisième, les paroles de l'âme. La quatrième, le monde. Ou encore, je peux mettre aussi à côté du monde, les mauvaises compagnies, c'est-à-dire ceux avec qui on marche. Alléluia. Ces 4 sources-là de paroles nous communiquent certaines choses. Nous disent certaines choses. Si nous recevons ces paroles, elles nous détournent carrément de la voix de Dieu. Elles sèment en nous le doute, la peur, l'échec. Dieu dit dans le livre de Josué chapitre 1, Que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc, on peut encore inverser la parole. L'échec vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Les malheurs chroniques, Dieu peut permettre l'épreuve pour nous en sortir. Mais demeurer là-dedans depuis des années, des célibats chroniques qui n'en finissent pas, la stérilité, une maladie qui ne part jamais, ça vient du diable. Ça ne peut pas venir de Dieu. Et si tu es malade, si l'échec est dans ta vie, parce que le Dieu que tu adores est un grand Dieu, malgré que le fait que Dieu soit si grand, comment ça se fait que ta situation professionnelle, depuis tant d'années de prière, n'évolue pas? Ce n'est pas normal. Il y a en toi une semence qui est négative. Il faut l'ôter. Et la semence qui est négative, là, n'est pas forcément ce que tu crois. Parce que quand on parle de semence négative, plusieurs verront impudicité, mensonge et autres. Mais il y a de fausses conceptions. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant, ce que Pierre est en train de dire est une conception que nous tous ici aurions portée. Jésus est en train de dire simplement, Pierre est en train de dire simplement à Jésus, il ne faut pas dire que tu vas être crucifié. Nous tous, on allait s'associer à Pierre pour dire, Pierre, c'est que tu dis, nous sommes d'accord. Mais en ce moment-là, nos conceptions étaient des conceptions diaboliques. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc il y a quatre soucis. Il y a le diable, la chair, l'âme, le monde. Et je parle aussi là-dessus, les mauvaises compagnies. Si tu écoutes ces quatre types de paroles, si tu les reçois dans ton cœur, elles vont semer dans ta vie l'échec. Elles vont semer dans ta vie des problèmes à n'en pas finir. Et à un moment donné, Dieu va t'utiliser pour réaliser des exploits dans certaines choses. Par exemple, tu te lèves, tu vas prier pour un malade. Le malade est guéri, mais pour toi-même, les mots qui te troublent, tu n'arrives pas à recevoir ta guérison. Dieu t'utilise pour les gens qui sont à l'extérieur, mais dans ta propre maison, Dieu ne se manifeste pas. Tu pries, les situations extraordinaires sont décantées pour d'autres personnes. Donc pendant un moment donné, Dieu est capable de dire au travers de toi, « Oh, ah, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et puis quelques temps après, « Rien de moi, Satan. » Et ta vie aussi entre ces deux mouvements. Parce qu'en toi, il y a plusieurs voix. Alléluia. Toutes ces quatre voix-là peuvent être regroupées comme étant des voix du diable. Mais je vais les spécifier pour qu'on puisse en faire la différence. La première caractéristique, j'en ai déjà parlé dans l'enseignement, le diable, il a deux genres de paroles qu'il nous envoie. Des paroles d'accusation et des paroles de mensonge. Le mensonge. Ce sont des paroles qu'il sème. Celui qui reçoit les paroles est transformé dans un domaine de sa vie en fils du diable. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. L'accusation. La Bible appelle Satan l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il est dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ça veut dire quoi? Le travail de Satan, c'est d'accuser. Si Satan s'identifie à l'accusation, c'est que l'accusation a un très fort impact sur la vie d'un individu. Il faut ce soir que Dieu te délivre des semences accusatrices du diable. Elles te limitent. Elles t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Elles t'empêchent d'être transformé. Elles t'empêchent de saisir des miracles. Elles te mettent dans une situation comme Pierre. Un moment, Dieu travaille avec toi. Un moment, la galère, les problèmes, le diable règne dans ta vie. Et ta vie ne reflète pas le règne de Dieu. Tu dis fils de Dieu, mais on ne voit pas cela briller au travers de toi. Donc Satan est appelé accusateur. Et Jean 8, 44, la Bible dit que Satan aussi est le père du mensonge. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors parlons un peu donc de l'accusation, Satan l'accusateur. L'accusation, je l'ai expliqué aussi la dernière fois, consiste simplement à traiter une personne, à identifier une personne à une chose négative. Par exemple, quelqu'un a volé, je lui dis, voleur, menteur. Ou quelqu'un a posé un acte qui n'est pas intelligent, je lui dis stupide, bête, insensé. Et toutes les injures que vous pouvez imaginer. Toutes ces genres d'injures qui s'attachent à un individu sont des paroles de Satan. Si tu te rends compte que toi-même, écoute-moi bien, tu le dis facilement à des personnes, ça veut dire que ces paroles-là sont encore en toi, toi-même tu les as reçues. Je t'explique. Si dans ta vie, que tu le dises verbalement ou pas, tu regardes une personne, tu dis, mais il est stupide. Toi-même, ce que tu es en train de dire, là, tu es en train de transporter une parole du diable. Et en ce moment-là, tu travailles dans le camp du diable. Tu es fils de Satan. Si Jésus était devant toi, il allait te dire, arrière de moi, Satan. Il y a des accusations même dont les chrétiens sont maîtres. C'est-à-dire, ils vont prendre le mot péché là même pour insulter des personnes. Toi, pécheur. Dans ce cas, ce n'est plus une exhortation. Ce n'est plus une manière de parler pour que la personne soit délivrée. Ça devient de la délation, ça devient une accusation. Alléluia. Jésus dit dans le livre de Matthieu, donc chapitre 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Je dis, ah Seigneur, ça veut dire quoi? Et celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Vous voyez, quand vous voyez ces propos, je dis, mais Seigneur, petit insensé là, ça peut mener quelqu'un en enfer. Oui. Ces paroles sont d'autant plus dangereuses parce que lorsqu'un individu les reçoit, elles peuvent détruire toute sa vie. Et nous-mêmes qui sommes là, vous-mêmes qui êtes là, vous êtes victime dans votre démarche, dans votre manière d'agir, de ce genre d'accusation de l'ennemi. C'est un type d'accusation qu'on vous a donné. Regardez un enfant simplement, ou bien pendant que vous êtes en train de marcher, si vous fuyez dans votre vie, vous allez voir que certaines personnes, parce qu'on a dit tout le temps, tu es bon à rien, tu es trop bête, tu es stupide, ils sont devenus extrêmement maladroits, négligents sur beaucoup de choses. La négligence qui est dans ta vie, le fait de ne pas travailler avec diligence peut être le fruit d'une accusation. Tu n'as pas de zèle pour travailler. Tu n'as pas de zèle pour entreprendre. Tout à l'heure, je parlais, du travail, du côté de la démonstration. Tu n'as pas de zèle parce que tu as reçu des paroles, quelquefois d'accusation, qui t'ont limité. Et moi, j'avais reçu ces choses dans ma vie. Comme la majorité d'entre nous. Il faut que tu identifies ces gens d'accusation-là et que tu les enlèves de ta vie. Par la parole de Dieu, par ce qui est la vérité. Dieu n'a jamais créé une personne stupide. Dieu n'a pas créé quelqu'un insensé. Lorsque vous dites à un individu qu'il est insensé, vous vous adressez directement à son créateur. C'est pourquoi Dieu dit, tu mérites d'aller en enfer. Mes amis, ne vous laissez pas influencer par les accusations et vous-même, ne les dites pas aux gens. Est-ce qu'on me suit? Et je marche avec beaucoup de frères. Et je remarque la vie, j'ai vu les frères qui ont énormément de difficultés. Et quand vous parlez avec eux, vous sentez en eux un profond manque de confiance. Profond manque de confiance. Parce que dans leur esprit, depuis qu'ils sont petits, « Oh, toi, va là-bas, vilain comme ça. Tu es trop vilain même. Quitte-la. » Ces paroles-là ont été reçues. Or, à ceux qui reçoivent les paroles du diable, ces paroles ont donné le pouvoir de devenir enfant du diable. Et l'enfant du diable, c'est quelqu'un qui marche sans résolution, qui a peur de tout, qui a peur de parler, tu es au milieu des gens. La timidité que tu as, d'où elle vient? D'où elle vient? Tu crois que tu es calme. Tu penses que normalement, au milieu des gens, tu ne parles pas. Mais tu ne parles pas. Parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu ne parles pas. Parce que quand tu étais petit, chaque fois que tu levais la voix, on t'a chassé, on t'a réprimandé. Et aujourd'hui, tu as peur. Je m'exprime mal. Et si je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'il y a une accusation, quelque chose qui te limite. Dieu dit ceci en parlant à Timothée. Il dit, l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et pourquoi Paul est en train de dire ça à Timothée? Il dit, Timothée, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc Timothée avait reçu des dons spirituels. Il avait des capacités spirituelles. Mais ces dons spirituels sont morts à cause de sa timidité. Malgré le fait qu'il était un disciple, il fréquentait le Seigneur pendant longtemps. Dieu lui a donné des dons spirituels, mais ces dons spirituels ne peuvent pas se manifester pour faire bénéficier le corps de Christ, tout simplement parce qu'il était timide. Et la timidité ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi Paul lui dit, car l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force, non pas de timidité. Ça veut dire quoi? Si tu es timide, c'est un signe du diable en toi. Ce n'est pas de Dieu. Il ne faut pas justifier dans vos attitudes ce qui n'est pas de Dieu. En disant non, chacun a son tempérament. Lui, il est extraverti. Mais tu sais que ce n'est pas juste un tempérament d'introversion. Tu n'es pas introverti. En fait, tu es profondément timide. Tu as honte de tout. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Tout simplement parce que tu as été victime des paroles d'accusations du diable. Pendant que tu étais petit, on t'a fait des compliments, mais on t'a rempli d'accusations. Oh, tu es nul. Tu ne sais rien faire. Toi-même, je te dis. Hein? Et beaucoup ne peuvent pas entreprendre un travail. Lorsque tu commences ton activité, lorsque tu rentres dans un boulot, lorsqu'on te donne un travail, on t'ouvre les portes de l'emploi. C'est une porte que Dieu t'ouvre, mais tu n'arrives même pas à travailler avec conviction. Tu as toujours peur qu'on te renvoie. Et il faut que je fasse bien. Tu travailles avec la peur parce que Satan t'avait accusé. Tu es bon à rien. Et ce qui fait que le travail que tu produis est médiocre. Dieu qui t'avait donné une compétence. Tu es un intellectuel extraordinaire. Dieu t'a rendu intelligent. Mais ce don que tu as reçu, à cause de la timidité, qui est un fruit du diable, tu n'arrives pas à l'exploiter. Tu rentres dans des entreprises. Dieu commence à faire des choses avec toi. Il commence à bâtir un truc avec toi. Mais tu ne peux pas. Quand tu étais petit, on t'a dit, Satan t'a accusé. Paresseux, paresseuse. Et tu as accepté la parole. Donc à ceux qui ont reçu les paroles du diable, ces paroles-là ont donné le pouvoir de devenir aussi enfant du diable. On t'a dit paresseux, paresseux, paresseux. Et tu as accepté la parole sans te rendre compte. Toi-même, la propre structure que tu as bâtie, tu n'as pas la force de te lever tous les jours pour aller travailler, te battre. Le matin, tu dors jusqu'à un moment, tu commences à travailler. Un jour, subitement, sans que tu comprennes, le travail devient lourd. Tu n'as plus envie d'aller au boulot. Tu ne sais même pas d'où vient cette envie. D'où vient ce désir-là. Un travail. Tu dis, peut-être que Dieu n'est plus là-dedans. Mon frère, Dieu est là-dedans. C'est la timidité, fruit de l'accusation, qui t'empêche d'être diligent. Ce n'est pas Dieu. Le boulot devient lourd dans tes mains. Tu faisais ton commerce avec diligence. Mais vraiment, tu vois, je n'ai plus trop envie de travailler. Hein. Et tu commences à aller au travail. Les gens t'ont dit, tu ne fais rien de bien. Et tu as reçu les paroles. Satan te l'a dit au travers de la bouche de tes parents, au travers de la bouche de certaines personnes. Il t'a accusé. Et ça t'a amené à faire quoi? À être dans tout ce que tu fais, tu n'es pas excellent, tu n'es pas habile. Tu fais tout avec médiocrité. Moi, j'avais ces paroles en moi. Je ne peux pas travailler de manière excellente. Oh, la Bible dit, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se trouve auprès des rois. Et vous savez, de manière globale, de manière générale, beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs ont reçu ce type de paroles. On dit non, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et les gens sont convaincus, on est accusés. On dit, oh, dans votre ethnie là, tout là-bas, les gens volent. Eh bien, ils sont traîtres. Donc, tu as reçu une parole comme ça. Même quand tu arrives, l'argent est devant toi, tu ne penses même pas voler. Mais l'accusation te revient. Chez vous, on doit voler. Tu dois faire un détournement. Parce qu'on te dit, tu dois détourner. Parce qu'on t'a donné une accusation. Mes amis, quelles sont les paroles d'accusation que vous avez reçues qui font de vous, dans un domaine, des fils du diable? Incapable de manifester le don de Dieu, incapable de prier, de se lever maman pour prier, incapable de dire ce que tu penses. Et chaque fois que tu as parlé, on t'a rabroué. Et tous les dons, toutes ces capacités extraordinaires que Dieu a déposées sont en train de mourir. Comment Dieu va-t-il t'utiliser? Comment Dieu peut-il manifester ton potentiel? Si la timidité continue à te. À cause des paroles d'accusation, tu ne fais rien bien. Tu ne fais rien qui est bien. Ça veut dire, on t'a dit, tu ne fais rien de bon. Et moi, j'étais comme ça aussi. Donc, je touche les choses en désordre. Parce qu'on m'a dit, tu ne fais rien de bon, Mohamed. Tu ne sais rien faire de bon. Ce sont ces paroles-là qui m'ont suivi, puis j'ai échoué au bac. Vous voyez l'incidence que ça a sur la foi? Est-ce qu'on me suit? Dis avec moi aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je suis délivré. Votre exercice spirituel que je vous donne, c'est lorsque vous sortez de ce lieu, d'aller prendre le temps devant l'Éternel et de traiter avec les défauts qu'il va vous montrer. Dieu ne va pas vous les montrer tous en une seule fois. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est transformé en son image de gloire en gloire. C'est-à-dire, c'est quelque chose de progressif. À un moment donné, il te dit, on t'a accusé là-dessus. Et puis tu prends, tu regardes la Bible. Est-ce que Dieu tolère la timidité? Est-ce que Dieu tolère la légèreté avec laquelle je fais les choses? Je suis léger. Je dis des paroles, je ne fais pas. Je m'engage, je ne respecte pas. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est comme si je n'arrive pas à faire autrement. Je dis, je me mets devant l'Éternel. Seigneur, je vais changer. Seigneur, je vais changer. Mais il y a un programme dans ma tête qui a été déréglé par une accusation. La Bible dit c'est le travail de Satan, jour et nuit. Elle dit, c'est là, lui, l'accusement. Oh, 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 tu es ceci, tu es cela. Parce qu'il sait que ça détruit totalement un individu. C'est pourquoi Dieu dit, vous qui me craignez, ne dites jamais cela à une personne. Ne l'accusez pas. Sans quoi, vous méritez vous-même l'enfer. Parce que quand vous accusez une personne, vous êtes en train de détruire toute sa vie. Tout le potentiel que Dieu a déposé dans cette personne. Vous comprenez comment l'accusation est dangereuse? C'est pourquoi, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, prenez garde, même à vos amis, ne les jugez pas. C'est pourquoi Dieu dit, ne jugez pas. Ne vous arrêtez pas comme ça, et puis vous mettez à classer les gens. Qui vous donne ce droit? Parce que celui l'André, c'est un voleur. Pourquoi dites-vous? D'où tu sors? Qui t'a parlé? Il y a quoi? Il y a quoi? Alors lui là, oh, un misérable, un pauvre. Mais qui t'a... Attends, ta bouche là. Dieu veut prendre un petit... Il dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas juger? Et vous savez, on juge les autres parce que nous-mêmes, on a été jugés par les autres. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas. Dieu juge nos actes. Il faut dire aux gens, ce que tu as fait, c'est du vol. Mais il n'est pas... Tu dis à ton enfant, mais tu es un voleur. Voleur. Dieu au ciel, toi-même qui es en train de parler, là, Dieu veut venir te frapper. Il dit, mais pourquoi tu es en train de tuer l'enfant? Tu l'as accusé de voleur. Dans la vie, cette parole-là, si elle demeure dans son cœur, elle va le transformer constamment en voleur. Et il est là. Et les gens ne comprennent pas. Il y a des moments qui s'élèvent. Elle frappe l'enfant. Elles vont le déchirer. Tout ça là. Mais tous les jours, elles vont le rappeler, mais tu es un voleur. Pourquoi tu es un enfant comme ça? Elle ne sait pas que ces paroles qu'il a reçues, même si c'est que le vol est mauvais, il va les faire constamment. C'est pourquoi j'ai compris, parce que moi j'ai vu Dieu transformer des gens qui étaient liés au vol de manière viscérale, à l'impudicité, aux choses. Dès l'instant où j'ai pris le temps d'être avec eux, ou bien Dieu a pris le temps d'être avec eux, pour changer par la parole. Parce que c'est la parole, il faut que tu reçoives une autre parole pour changer cette parole. Cette délivrance-là, ce n'est pas démon, va au nom de Jésus. Non. Tu peux chasser l'esprit, mais si tu n'as pas changé le faux programme que Satan a semé dans son cœur, la semence du diable, ça va, il va avoir toujours la même attitude. Alléluia. Quelquefois, lorsque vous commencez à aider une personne, quand ce n'est pas évident, il faut prendre le temps. Parce qu'il y a longtemps qu'elle transporte une telle accusation. Alléluia. Donc, quand vous avez vos enfants, remplissez-les des paroles d'estime. Dis, tu es un champion. Même si actuellement, même quand il va à l'école, lorsqu'il commence à aller à l'école et que le premier devoir, il n'a pas de bonnes notes. Dis, fiston, mais dis à ta fille, tu es intelligent. Tu sais que tu es superbe. Ouais. Ton enfant est là. Maman dit que je suis intelligent. Et puis elle peut arriver. Ah, mais maman, tu as vu. Tu dis, je suis intelligent et puis je n'ai pas bien travaillé à ce devoir. Tu dis, non. Ça, c'est un événement. Mais un événement, ce n'est pas ton identité. Tu as mal travaillé à ce devoir. Mais ça, ce n'est pas ton identité. Alléluia. Alléluia. Tu as mal fait ceci. Ne recommence plus. Mais tu as en toi la capacité de ne plus recommencer. Parce que tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Alléluia. Ou bien, plutôt, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas tes erreurs passées. Ce n'est pas toi. Tu as commis des erreurs. Mais ne t'identifie pas à ces erreurs. Car ta source est divine. Alléluia. Ah, quand je vois ça, je suis trop content pour nos enfants. Parce que nous, là, on a tellement reçu l'accusation quand on était petits. Mais je sais que vous qui avez compris la parole, c'est pourquoi nos enfants seront des champions. Parce qu'on va les remplir des choses. On va les corriger quand il faut les corriger. On va les mettre sur le chemin. Mais on va leur dire qu'ils sont des champions. On va leur dire qu'ils vont réussir. Alléluia. Souvent, ce que nos parents nous ont dit, ce sont les mêmes choses que nous avons répétées parce que c'était en nous. On demande à Dieu pardon parce qu'on ne savait pas, parce qu'on était ignorant. Dieu ouvre nos yeux. Ces paroles ne sont pas là pour nous accuser, ni pour nous plaindre de nous, mais juste pour nous donner de guérir intérieurement et profondément. Vous allez voir comment vous pouvez devenir excellent dans votre travail, parce que naturellement vous êtes excellent. Diligent, pas paresseux, travailleur, excellent dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir que ça marque la différence. À un moment donné, les gens vont sentir dans votre entreprise que vous êtes nettement meilleur. Parce que vous manifestez le potentiel de Dieu. Vous ne manifestez plus en ce moment-là des paroles du diable. Alléluia.
C'est le diable qui a dit que tu étais paresseux. C'est le diable qui a dit ceci. Donc tu arrives. C'est le diable qui a dit que tu ne peux pas travailler longtemps. Donc à peine tu commences à faire quelque chose. C'est le diable qui t'a dit, toi tu commences, tu ne finis jamais. Et tu as reçu cette parole-là. Donc depuis tout le temps.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.